das Argument dieses Vortrags könnte kurz so lauten. Erstens, Heidegger ist unbestreitbar ein Antisemit, ein ich weiß nicht, ob man das so auf Deutsch sagen kann, ein Erz-Antisemit, ein Grund-Antisemit. Sein Antisemitismus ist tiefgründig. Zweitens, er denkt aber, auch durch diesen Grund-Antisemitismus denkt er. Diesen doppelten Prozess, das heißt, oder diese zwei Aspekte eines und desselben Prozesses, versuche ich in diesem Vortrag zu beschreiben und mindestens teilweise zu erklären in den Kettengliedern, die David Espinet, und ich möchte ihm dafür auch danken, in seiner Zusammenfassung bestimmt hat. Also ich werde meinen Text so auf Französisch lesen, vorlesen. Pour aller tout de suite et droit à mon sujet, à savoir cette question de l'antisémitisme de Heidegger, et s'agissant de ses manifestations dans les quatre volumes déjà publiés des Schwarze Hefte, il me semble qu'une règle de bonne lecture s'impose, que je voudrais préciser avant d'entrer dans le vif du sujet. Il serait inconvenant à mes yeux de poser que l'antisémitisme de Heidegger tiendrait tout entier et seulement dans la quinzaine ou la vingtaine de passages explicites des quatre volumes de la Gesamtausgabe. Cet antisémitisme ne se laisse pas circonscrire à quelques occurrences où affleureraient comme ça des bévues, des grosses bêtises, hein, des grosses Dummheit dont Heidegger a parlé. Je prendrai un exemple qui date de la période du rectorat, qui ne se trouve pas dans les cahiers noirs. Il s'agit du fameux rapport que je suppose beaucoup d'entre vous, tout le monde connaît, sur Richard Hönigswald de l'école néo-kantienne, dit Heidegger, rapport qu'il adresse, que Heidegger adresse, à qui de droit, le 5 juin 1933. Ce rapport se trouve dans le volume 16. C'est une évaluation très très fielleuse qui ne porte pas une seule fois, c'est pour ça que je retiens ce texte, qui ne porte pas une seule fois le mot de juif ou de judaïsme, et il est pourtant, ce rapport, rempli de ce que je propose, ce que j'ai proposé dans un autre texte, d'appeler des antisémitismes, à savoir des idiotismes, il faut entendre ce mot d'antisémitisme comme on dit germanisme, comme on dit gallicisme, ou comme Flaubert parlait de ces normandismes, à savoir des expressions idiomatiques, une langue, une métalangue, constituée à partir de constructions grammaticales précises, de locutions, de métaphores, et qui porte un sens, pardon, par sa signification englobante, et non pas par chacun des mots qui la composent. Ces antisémitismes sont autant d'effets de langage, de figures de pensée qui sont déployées, qui sont articulées et explicitées dans les cahiers noirs. Je vais y revenir dans un instant. S'agissant du rapport sur Hönigswald, du rapport de juin 1933, donc, cet universitaire, Richard Hönigswald, se voit, de l'école néo-kantienne, se voit imputer à charge une freischwimmendes Bewusstsein ou un Scharfsinn ou encore eine leerlaufende Dialektik, qui sont comme des marqueurs surdéterminés, j'aurais pu en citer d'autres, il y en a une quantité d'autres, et qui entendent mettre à nu chez l'universitaire en question, je cite le rapport de Heidegger, sous les apparences de la rigueur philosophique, le détournement loin de, je cite encore, l'homme dans son enracinement historial et la transmission ethnique, völkisch, de son origine depuis le sol et le sang. Voilà ce que sont ces antisémitismes, et qui fonctionnent à l'autonomisation ou à l'absolutisation d'un certain nombre de syntagmes, des syntagmes qu'ils transportent eux-mêmes. C'est-à-dire que chacun sait, en lisant ce texte, locuteur, lecteur, auditeur, chacun sait de quoi il retourne exactement avec cet idiome générique qui est charrié par le sens, par le tissu de sens qu'il engendre lui-même. Ce sont donc ces antisémitismes qui sont des automatismes langagiers et qu'on retrouve dans de très nombreux discours idéologiques, académiques, journalistiques, littéraires, tout ce qu'on voudra, d'époque. Je me réfère dans mon texte, mais je le fais comme ça en passant, à la locution de Goebbels du 10 mai 1933, à l'occasion des autodafés de livres anti-allemands, où il parle de Intellektualismus, Spitzfindigkeit, Haarspalterei, etc., etc. Alors, cette détermination de ce que j'appelle ici des antisémitismes, au sens donc d'un idiome, hein, de la constitution d'un idiome, n'épuise évidemment pas la question chez Heidegger. Mais ça me permet au moins de fixer un premier point, à savoir que cette première strate antisémite, langagière si on veut, est occupée, pleinement occupée par Heidegger, avec les usages, en particulier dans la période du rectorat bien sûr, avec les usages, les pratiques, les responsabilités politiques qui y sont associées. Première évidence, donc, que je rappelais en commençant, par où j'ai commencé, Heidegger a été un vrai nazi, un antisémite affirmé. Alors, toute une série de questions se lèvent en particulier sur le statut de cet antisémitisme. On y a fait allusion tout à l'heure. Antisémitisme vulgaire, si on veut, ou antisémitisme immémorial, antisémitisme métaphysique ou antisémitisme onto-historial. Et est-ce que cet antisémitisme, en fonction justement de la réponse qu'on aura apportée, en particulier sur métaphysique ou onto-historial. Est-ce que cet antisémitisme, on peut l'inscrire, est-ce qu'il est légitime de l'inscrire dans une tradition qui est celle de l'Occident, à vrai dire, une tradition théologique, philosophique, beaucoup plus vaste. Est-ce que ce geste est légitime ou pas? C'est une question. Quand je parle d'une tradition, évidemment, et la théologie de Nicolas de Cuse ou de Luther jusqu'à la philosophie, jusqu'à Hegel ou à Nietzsche, et évidemment à Heidegger, que je pense. Deuxième évidence, la première donc porte sur l'antisémitisme de Heidegger. Deuxième évidence, qui me paraît aussi massive que la première, c'est que ce qui s'écrit, ce qui se déploie, ce qui s'articule tout au long des cahiers noirs, relève évidemment, sans aucun doute à mes yeux, c'est une question qui a été discutée, et à Paris, et à Rome, enfin, relève à mes yeux, sans aucun doute, de la pensée, et de la pensée philosophique. Si on entend philosophie, non pas dans sa seule acception heideggerienne métaphysique, si vous voulez, mais au sens large, hein. Donc, de ces deux évidences qui me paraissent aussi incontestables l'une que l'autre, de ces deux prémices, une seule conclusion se tire et qui accompagne cette souffrance de pensée qui est liée à la lecture continuée de ces textes. Une seule conclusion, donc, si l'on peut tenir sous condition qu'il ne saurait y avoir de philosophie nazie, il y a en tout cas de la philosophie dans le nazisme. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais ce qui relativise fortement l'idée selon laquelle il ne peut pas y avoir de philosophie nazie. Et il me semble que l'opération heideggerienne, telle qu'on la repère dans les cahiers noirs, mais telle qu'on pourrait la repérer dans toute une série d'autres textes, qui sont les contemporains des annotations des cahiers. L'opération heideggerienne, me semble-t-il, aura consisté non pas à introduire le nazisme dans la philosophie, c'est le titre que vous connaissez certainement de l'ouvrage d'Emmanuel Faye, mais, et ce n'est pas simplement une sorte de rhétorique de l'inversion, ça implique toute une série de différences avec la thèse d'Emmanuel Faye, de différences profondes, mais l'opération aura certainement consisté à introduire la philosophie dans le nazisme. Ce qui, je le répète, implique des conséquences tout à fait différentes. Alors, cette hypothèse que je vais essayer de développer, cette hypothèse ne se soutient évidemment, c'est une thèse aussi sur la philosophie, cette hypothèse. Elle porte une thèse sur la philosophie, pas sur la philosophie de Heidegger seulement, sur la philosophie en tant que telle. Et il me semble que, parce qu'il y a une sorte de présupposé ou de préjugé très naïf chez Emmanuel Faye qui réduit la philosophie, au fond, à un humanisme bien tempéré, à un rationalisme acclimaté dans la tradition de l'Occident. Dire qu'il y a, que l'opération heideggerienne, c'est une opération d'introduction de la philosophie, en tant que philosophe, donc de la philosophie dans le nazisme, emporte une thèse sur la philosophie selon laquelle, on pourrait le montrer tellement simplement que je ne m'y attarde pas, selon laquelle la philosophie est tout autre chose que cet humanisme ou ce rationalisme dont je parlais. Dans les centaines de pages qui forment les volumes jusqu'à présent publiés des Cahiers noirs, se tient, s'exerce et se déploie une pensée. Une pensée dans laquelle le judaïsme est déterminé à partir d'une perspective, à partir de positions qui sont celles de Heidegger, à savoir que l'histoire destinale de l'être, avec le Y, de l'estre, donc dans la traduction française, est visée lui-même dans son sens et dans sa vérité. Cette assignation du judaïsme à une place et à une fonction dans l'histoire de l'être n'empêche pas qu'il y aille ici d'une pensée, pas plus et pas moins que chez Nietzsche. Chez Nietzsche, la réduction du judaïsme au judaïsme sacerdotal et du judaïsme sacerdotal à la transvaluation inaugurale de toutes les valeurs pour donner lieu à la morale d'esclave, on peut bien considérer que c'est une fable que nous raconte Nietzsche, un grand récit, le grand récit de la révolte des esclaves. Mais cette considération, une fable, un grand récit, tout ce qu'on voudra, n'invalide pas par soi-même la pensée nietzschéenne en tant que pensée, loin de là. On a affaire dans les Cahiers noirs donc à une pensée, c'est-à-dire à une disposition de concept, de métaconcept si on préfère, qui permettrait de déterminer notre époque comme celle de la fin de la métaphysique, de sa fin et de son triomphe en même temps, et dans cette époque, ce qui s'avérerait en son essence propre serait le judaïsme, avec d'autres forces, le christianisme, l'américanisme, le bolchevisme, etc. Cette juxtaposition elle-même pose toute une série de problèmes, il suffit de l'indiquer pour les deviner. J'évoquais Nietzsche, on pourrait évoquer aussi, si j'ai un petit peu de temps, je le ferai de façon un peu plus développée à la fin de cet exposé, mais on pourrait évoquer aussi le Hegel, le jeune Hegel. L'opération hegelienne dans l'essence du christianisme et son destin, donc un texte de 1798-1799 de la période de Francfort, est tout à fait comparable, à mon sens. Il s'agit là aussi de constituer philosophiquement la position d'un diagnostic sur l'époque qui est une époque, nous dit Hegel, de positivité généralisée, positivité au sens du jeune Hegel, hein, positivité dont le judaïsme serait l'inventeur et dont le christianisme institutionnel serait le continuateur civilisationnel. Le diagnostic hegelien n'est pas moins violent, je dirais même qu'il est un peu plus, que celui formulé par Heidegger. Chez les uns et chez les autres, au fond, les juifs, le judaïsme, sont toujours, pour reprendre le titre d'un ouvrage d'un socialiste fourriériste français du milieu du XIXe siècle qui s'appelait Toussnel, sont toujours les rois de l'époque. C'est sur cette royauté sur l'époque, au fond, qu'il s'agit à chaque fois de statuer. Que nous disent de l'époque les Cahiers noirs? En revenant, je n'ai pas le temps de m'y arrêter sur toute une série d'autres textes, en particulier de Beitrager. Que nous vivons dans un état d'urgence, dans un temps d'urgence. Il y a dans ces textes un pathos de la détresse, de la nécessité, du péril imminent, avec ce registre de Not, Notwendigkeit, Nötigen, Notlage, etc., donc, qui indique ce registre. Cette urgence, ce sentiment même qu'il est déjà trop tard, atteste un état du monde qui serait marqué par toute une série de déliaisons puissantes, extraordinairement délétères, Entwurzelung, déracinement de tout étant hors de l'être, Entgötterung, la désacralisation ou la profanation généralisée, Entzauberung, désenchantement qui se paie du prix d'une Verdüsterung, c'était d'un assombrissement, d'une dévastation du monde. Cette série des Ent s'accompagne d'une quantité de los, c'est-à-dire d'absence, de sans, sans monde, Wertlosigkeit, Bodenlosigkeit, Geschichtslosigkeit, Bindungslosigkeit, etc. Cet état donc de déshérence fatale se montre dans l'impossibilité accrue que puisse être seulement posée la question de l'être et de l'histoire de l'être. Car ce qui prime désormais absolument, c'est ça le diagnostic épocal, le diagnostic sur l'époque, ce qui prime, c'est ce que Heidegger appelle « historia der métaphysique », c'est-à-dire déploiement illimité d'une pensée moderne, tablant sur une succession strictement chronologique, comptable, de paradigmes efficaces, où s'efface toute possibilité d'une histoire ou d'une pensée méditante de l'être. C'est donc l'étang qui désormais règne partout, dans sa computation brutale, nue, réduit à ce que Heidegger appelle le Riesisch, le Riesenhaft, c'est-à-dire le massif, quantifiable, ordonné à une rationalité calculante. Nous sommes donc tous engagés dans le tourbillon, dans ce que Heidegger appelle aussi la danse macabre, des Irrungen, des erreurs, des méprises, des errances, où l'être s'abîme en étant, l'étant s'abîme en effectif, l'effectif s'abîme en efficace, et l'efficace en effacement de toute possibilité même de méditation. Le concept qui rassemble tous ces traits, je parle de concept là aussi au sens indéterminé, hein, je ne reviens pas au sens proprement heideggerien qui pourrait invalider l'usage que j'en fais ici. Le concept qui rassemble ces traits et qui manifeste leur essence unitaire, c'est le concept, tout le monde le sait désormais, de Machenschaft. Machenschaft, donc, fait entendre en allemand à la fois quelque chose de l'ordre du faire, de la fabricabilité et de la manigance, de la besogne. Cette Machenschaft désigne la faisabilité illimitée de tout étant, qui serait grimée en une vérité de l'être et qui s'effectuerait comme telle, comme vérité de l'être. Cette notion qui est élaborée dans les Beiträge, qu'on retrouve dans Besinnung, que Heidegger lui-même se réfère à ses textes, cette notion de Machenschaft se déploie avec une intensité quasi irradiante tout au long des Cahiers Noirs. Elle a un office, je parlais d'opération heideggerienne, elle a un office tout à fait marqué. Son office de pensée, l'office de pensée de la Machenschaft, c'est de fournir une clé ouvrant à la méditation de l'avènement du nihilisme, réalisé sous et dans l'essence planétaire de la technique. La Machenschaft, avant que lui soit substitué ultérieurement le Gestell, consiste donc en un agencement produit par des manipulations visant à la prise de possession de l'étang, des étangs dans leur ensemble ajusté. Elle repose donc sur l'intervention active dans son domaine propre d'une entreprise, d'un exercice, d'un affairement, d'une agitation qui correspond au registre du B-trip, cette fois, qui est aussi très insistant dans les cahiers. Et le B-trip, qui est déterminé par Heidegger comme « eine Betreibung des Seienden », un agissement de l'étang incluant à la fois le Naturbetrieb, exploitation de la nature, que le Kulturbetrieb, c'est-à-dire l'affairement politico-idéologique autour de la culture rapportée aux affaires culturelles, qui est une figure omniprésente dans les cahiers, si omniprésente qu'à la fin elle fonctionne à l'équivalent, c'est-à-dire Kultur et Betrieb désignent sensiblement la même chose. Donc la Machenschaft et le Betrieb assure quelque chose qui est de l'ordre d'une maîtrise, d'une volonté de maîtrise sur un ensemble, homme compris, un ensemble de ce qui se définit comme matériaux pour asseoir le règne de la puissance du sujet, de la volonté, de la représentation, c'est la même chose. Le monde se donne donc dans sa totalité comme « das vor- und herstellbare Seiende als Ganze », écrit Heidegger. L'homme lui-même croit qu'il se fait et croit être ce qu'il se fait, les traits constitutifs de la manipulation technico-instrumentale de l'étang que rassemble la Machenschaft sont autant de traits de décadence, de déclin, déclin qui est associé à la Kultur elle-même et qui se tient du côté de l'étang du côté de l'historie contre la Geschichte. On a donc un diagnostic sur l'époque qui est articulé sous un ensemble de déterminations. J'ai parlé ici de la Machenschaft et du Betrieb, il y en aurait évidemment d'autres. L'histoire destinale de l'être dans laquelle nous sommes engagés obéit donc à un mouvement qui est un mouvement désastreux, qui est le mouvement d'une occultation de ce qui s'est originairement, on retrouverait la pensée du commencement bien sûr ici, dispensé dans la vérité de l'être. Du coup, notre histoire errante, cette histoire des Irrungen, se termine en Occident, Abendland. Son soleil s'y couche, l'histoire de l'être s'y achève dans l'attente d'un autre commencement. Elle s'y enraye aussi, sans doute, dans une atmosphère tout à fait frappante à la lecture des cahiers de fin de l'histoire. Notre époque est celle de l'accomplissement de l'essence planétaire de la technique. Elle ne peut, au fond, je parlais d'enraillement, c'est ça que ça veut dire, elle ne peut que recomposer avec des principes déjà existants, réorienter des présupposés, répéter sans savoir des instances déjà effectuées. Elle n'a même plus à les penser. Elle les redistribue. L'histoire continue, elle va son train. « Vieles passiert, nichts mehr geschieht », écrit Heidegger. On a une prolifération de pseudo-événements qui dissimulent en fait une stagnation profonde de l'histoire, une sorte d'immobilité mortelle. Nous vivons dans une histoire sans histoire, dans une histoire sans événements. Et il y a donc une fin de l'histoire qui est pensée par Heidegger, évidemment pas au sens cogévien ou hegélien, c'est une autre chose. Fin de l'histoire qui signifie que l'avenir technoscientifique ou technologique de cette histoire n'est rien d'autre que ce qui, dès l'origine, a été inscrit dans un passé métaphysique. Avec Socrate, c'en était déjà fini, c'en était écrit Heidegger. La fin est donc l'achèvement crépusculaire de la métaphysique dans le dispositif technique planétaire. Et l'histoire réalise son programme constitué dans un passé reculé. Et en réalisant le programme de ce passé, elle touche à sa fin. Alors, ce que j'ai décrit jusqu'à présent correspond au fond à ce que Günther Figal expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une sorte de Denkexperiment. C'est-à-dire que dans ce que j'ai décrit ici, on a un diagnostic qui est porté sur l'époque, et je me suis, dans cette partie de mon exposé, abstenu de parler de Weltjudentum, Judentum, etc. etc. Et à cette description onto-historiale de la domination sans partage de l'étang, de l'historieux, de la pensée calculante, de la calculation universelle, etc., à cette description, on peut acquiescer comme on peut la contester. Mais qu'en est-il du judaïsme dans cette histoire? La réponse est assez simple. Les attendus qui constituent ce diagnostic sur l'époque et cette description recoupent en même temps la détermination du judaïsme dans son essence métaphysique ou bien épocale. L'époque, je viens de le dire, est l'époque du primat absolu de l'étang sur l'être, de son ère universelle inentravée, de sa victoire, de son règne achevé, c'est le mot de Heidegger. Or, le judaïsme, dans sa mondialité sans limite, est justement le roi de ce règne, les rois de l'époque de Toussnel. Voilà comment se rejoignent ou s'ajointent, au fond, les deux bouts de l'histoire de l'être d'un côté et de l'antisémitisme de l'autre. Pour Heidegger, dans les cahiers noirs, le judaïsme est le comble de la métaphysique occidentale en son achèvement dans l'histoire. Cette histoire envisagée comme un conte de causes et d'effets, Historia rechnet, écrit à plusieurs reprises Heidegger. Ce judaïsme mondial, ou cette juiverie mondiale, il y a un débat sur la traduction en français qui n'a pas d'intérêt ici, bien sûr, c'est le Weltjudentum. Ce Weltjudentum pose la question métaphysique du genre, je cite ici Heidegger, pose la question métaphysique du genre d'humanité qui peut prendre en charge. Je crois que le genre d'humanité, c'est Menschentümlichkeit en allemand, du genre d'humanité qui peut prendre en charge de façon purement et simplement déliée le déracinement de tout étant hors de l'être comme tâche mondo-historiale. Et dans ce même passage, c'est le volume 96, page 243, mais tout le monde connaît ces passages, Heidegger explique donc que le judaïsme mondial ne pose pas une Rassenfrage, ce n'est pas une question raciale, dit-il. Pas davantage qu'il n'est, à un certain nombre d'exceptions près, sous la plume de Heidegger, l'intrus asiatique de la propagande nationale-socialiste. Mais il ne faut pas se tromper. L'absence de biologisme racial et la fonction éminente de porteur de l'étang hors sol à même l'histoire de l'être et de son oubli aggravent, non seulement n'exonère pas Heidegger de tout antisémitisme, mais aggrave le cas de Heidegger, si je puis dire, et forme même une sorte de surenchère sur le nazisme vulgaire et ses thèmes habituels. Le Weltjudentum est mondial à la mesure de ce qu'il effectue dans le monde sans monde qui est le sien, à savoir le nihilisme radical de l'étang pour l'étang. Ces figures sont toujours composites. Quand je dis composites, il y a des mots composés que forme Heidegger. L'hellénistico-juif, le christo-hellénistico-juif, le christo-juif, le socratico-platonico-juif, etc., etc. Dans la multiplicité que j'évoquais tout à l'heure très vite des sans, des los, sans sol, sans monde, sans lien, sans histoire, sans être, etc., dans la variété des ent, que j'ai également relevé tout à l'heure, dans l'activation des figures Machenschaft du judaïsme, le gigantesque, l'agitation, la culture, la prévision calculante, le destructif, le judaïsme, le Weltjudentum, la détermination mondiale ou mondo-historiale joue son rôle ici, bien sûr, le judaïsme figure l'envers de l'être. Il forme une sorte de kyste que Heidegger appelle la racine métaphysique de l'histoire occidentale, dont le judaïsme mondial figure, porte l'ensemble des tares, jusque et y compris le principe de la race, et de proche en proche, le national-socialisme lui-même, en tant qu'il finit, c'est un bon mot de Heidegger, en rational-socialisme, écrit-il, après avoir commencé en mystique révolutionnaire radical, on l'a rappelé tout à l'heure. Il faut être attentif à cette rhétorique, parce que elle est plus ancienne que Heidegger lui-même. Je cite un passage du volume 96. « Les Juifs vivent depuis longtemps déjà selon le principe de la race. Et c'est pour cette raison qu'ils se défendent violemment contre son application illimitée. » Il y a peut-être une tragédie, là je songe au texte de Hegel, si j'en dirai un mot dans un instant. Il y a peut-être une tragédie des Juifs, mais c'est une tragédie, disait Hegel, et c'est quelque chose qu'on sent à lire certaines formulations de Heidegger, c'est une tragédie qui nous laisse indifférents, comme le sort de Macbeth, notait Hegel. Si les Juifs pâtissent du racisme, c'est par une sorte de juste retour des choses, puisqu'ils en sont les inventeurs. S'ils sont détruits, c'est qu'ils sont eux-mêmes porteurs d'un principe qui est le principe de la destruction. Et donc, ce principe de destruction dont ils sont les inventeurs, les promoteurs et les porteurs, ils le subissent jusqu'à leur fameux passage auto-destruction. Le judaïsme mondial, Weltjudentum, donc, consigne le triomphe de l'oubli de l'être. Parce qu'il aura travaillé continuellement, en tant que tel, dans son essence même, à ce que la question de l'être soit manquée, versäumt. Il signifie, selon un régime qui lui est propre, et selon un régime qui a à voir avec sa propre auto-intensification continue, il signifie donc, d'un seul tenant, l'achèvement de la modernité, et la dévastation radicale de la pensée. C'est la raison pour laquelle il constitue un paradigme extraordinairement efficace. Tout ce qui relève de la dite modernité et qui se marque dans un grand remplacement, je fais allusion ici à un mot d'un idéologue français d'extrême droite qui s'appelle Renaud Camus, qui parle, lui, d'un grand remplacement, il pense en particulier, évidemment, aux populations migrantes. Mais il y a cette idée d'un grand remplacement de l'être par les temps, de la Geschichte par l'historien, du questionnement de la vérité de l'être par le calcul, l'opération calculante, de l'œuvre ou de l'œuvrer par l'organisation, de la philosophie et de l'art par la Weltanschauung, ou la Kultur, ou le Betrieb, ou le Kulturbetrieb, et du poétique par le fabriqué. Fabriqué qu'on entend aussi dans Machenschaft. Tout ceci porte l'empreinte du Weltjudentum, et c'est à ce titre que Heidegger en fait une cible, et qu'il l'institue comme un paradigme. Le judaïsme détruit du dedans même de la métaphysique occidentale, les promesses que la métaphysique pouvait à la rigueur porter. Il les obture, il les achève, il les renverse. Il y a le fameux passage aussi, c'est le même que celui sur l'autodestruction, du volume 97. Marx, par exemple, devient sous la plume de Heidegger le penseur juif qui aura massivement contribué à la victoire mondiale dans l'horizon du judéo-bolchevisme d'époque, de la victoire mondiale de la Machenschaft sous les espèces de, je cite le fameux passage, mais tout le monde le connaît, de la vie, c'est-à-dire de l'économie, de l'organisation, du biologique, du peuple. La communauté juive, c'est toujours Heidegger, je cite toujours ce passage du volume 97, page 20. La communauté juive est, dans l'espace-temps de l'Occident chrétien, c'est-à-dire de la métaphysique, le principe de destruction. Elle est le destructif dans le renversement de l'achèvement de la métaphysique, c'est-à-dire de la métaphysique de Hegel par Marx. L'esprit et la culture deviennent la superstructure de la vie, c'est-à-dire de l'économie, de l'organisation, du biologique, du peuple. La définition léniniste du communisme ou du socialisme, plus exactement, les soviets plus l'électrification, accomplit l'essence calculatrice, technicienne de la modernité. Le national-socialisme lui-même n'est rien d'autre qu'une figure du renversement, c'est-à-dire d'un Marx remis sur ses pieds, en quelque sorte. Et Nietzsche lui-même, dernier métaphysicien, ne fait à son tour que seconder Marx lorsqu'il renverse le platonisme. L'un et l'autre, Marx et Nietzsche, même s'ils n'ont évidemment pas le même statut, la même assignation, le même rôle dans la pensée de Heidegger, c'est une évidence, mais l'un et l'autre sont pris dans cette irrung, dans cette errance, erreur, qui consiste à réduire l'être à la valeur, au fond. La valeur est, je cite encore Heidegger, la traduction de l'essentialité de l'essence dans le massif et le gigantesque, soit l'abandon de l'étang à sa calculabilité. Donc, cette logique de l'étang, si on peut dire, et cette logique de l'imprécation de l'étang en tant qu'étang, peut être assez aisément imputée au Weltjudentum, comme peuvent lui être imputées, c'est le comble de cette opération, je ne sais même pas comment la qualifier, comme peuvent lui être imputées le national-socialisme, comme rational-socialisme, le racisme, la destruction, la dévastation du monde, la guerre totale, l'américanisme, le bolchevisme, les malheurs du peuple allemand, la modernisation des campagnes, le journalisme, etc., etc., etc. La détestation de l'époque, époque de ce que Heidegger appelle l'état global de l'aujourd'hui, vaut détestation des Juifs et emporte ou implique en elle-même telle ou telle de ces régions. Le christianisme en particulier, plus précisément ce que Heidegger appelle « Kulturchristentum », le christianisme culturel qui est désigné comme l'adversaire. C'est la raison pour laquelle les textes des cahiers noirs ne peuvent pas être, c'est une opération impossible à mes yeux en tout cas, ne peuvent pas être découpés en énoncés antisémites non philosophiques, relevant donc finalement d'une idéologie personnelle, après tout, et énoncé philosophique non antisémite, d'autre part. Il me semble que ce principe de lecture n'est pas théoriquement tenable. Il n'est pas possible de mesurer et de comparer, comme on déplacerait un curseur comme ça sur une échelle, l'intensité de ce qui, du judaïsme, de l'américanisme, du bolchevisme, du christianisme, etc., fait l'objet de la plus intense hostilité. Tout ceci, wesenhaft, dem wesen nach, quant à l'essence, tout ceci revient au même onto-historial, au même quant à l'essence. Partout s'impose machine et machination, partout l'historial est dégradé en présent, constant, disponible selon les besoins du moment, c'est encore une expression de Heidegger, la destruction produit sans relâche ses effets, le sans-sol, l'abandon à l'étang, l'étrangeté à l'être, la Machenschaft, en posant et disposant l'étang dans son étantité inquestionnée, se fait de plus en plus inconditionnée, elle affecte tout. Elle contamine de son rationalisme abstrait et de son pragmatisme calculateur tout jusqu'au national-socialisme, je l'ai dit, mais ça me paraît un point extravagant. Hein. Attaquer, c'est le fameux passage sur Husserl, hein, Angriff, attaquer le judaïsme mondial, c'est attaquer la métaphysique. On peut renverser le propos. Attaquer la métaphysique en son fond, en son essence, c'est attaquer le judaïsme mondial. Puisque c'est par, et le passage sur Landgriff contre Husserl est lui aussi extravagant, hein, puisque c'est par l'agencement manipulateur de l'étang qu'elle a promu que la métaphysique a été mise en position de dominer l'histoire mondiale. Le judaïsme incarne donc, de façon parfois diabolique, la faisabilité généralisée et la manipulation mondiale illimitée de tout étang, de tous les étangs. Cette opération se donne en outre comme la seule vérité de l'être, c'est-à-dire que la Machenschaft est associée à l'époque de la domination totale des moyens de dissimulation et de leurre. Étant donné sa dimension mondiale, c'est-à-dire son mode d'existence planétaire et cosmopolitisé, le judaïsme est la figure universelle de l'ennemi, si on veut. Sous cette figure sont subsumés, sublimés, compris tous les autres ennemis. Il y a plusieurs exemples frappants dans les cahiers. J'en donne deux pour vous faire comprendre un petit peu ce que je veux dire. Heidegger parle par exemple de l'Angleterre. Il dit que l'Angleterre n'a pas de véritable Abendländische Haltung. De conduite vraiment occidentale. Parce que son jeu géopolitique se confond désormais, dit-il, avec le jeu géopolitique de l'américanisme et du bolchevisme. Jusque-là, ça peut être après tout une analyse vue d'un point de vue national-socialiste, mais une analyse politique assez banale. Mais il ajoute « Das heißt zugleich auch des Weltjudentums ». On voit comment cette série de réductions fait que, partant d'une... au fond d'une analyse, qui est l'analyse de la situation actuelle et de l'Angleterre, il en arrive au Weltjudentum par une série d'équivalences liées à cette procédure du grand remplacement. Deuxième exemple très rapide, la Kultur, hein, dont j'ai parlé, ce Kulturbetrieb, il montre que c'est un désastre, une peste mondiale, dit-il à peu près, ce Kulturbetrieb. Et il explique que chacun y a apporté sa part, y compris les Allemands. Mais il explique que les Français sont véritablement les inventeurs. Et on comprend très bien ce que ça veut dire. Là aussi, je répète, on peut acquiescer à ce propos. Il montre que les Français, il y a toute une histoire, une tradition, etc., qui remonte à l'Ancien Régime, d'ailleurs. Hein. Là, je donne des arguments en faveur de l'orientation analytique heideggerienne. Les Français seraient, au fond, les inventeurs de la politique culturelle. On pourrait s'en tenir là. Non. Il ajoute, cependant, que la Kultur, en son essence, constitue, je le cite, un geste foncièrement juif. C'est la même procédure. Hein. On part de la culture, de l'analyse de la culture, on s'arrête sur le cas de la France, c'est évidemment important. Mais, ultimement, c'est ça ce que j'appelais tout à l'heure une racine, mais une racine au sens d'un kyste qu'on a dans la dent. Hein. Il y a une racine douloureuse de l'histoire de la métaphysique occidentale qui est toujours ce fameux Weltjudentum. Alors, la question maintenant, c'est de savoir jusqu'à quel point cette pensée du judaïsme, ou cette pensée plus exactement dans cette pensée de l'être dans laquelle le judaïsme se voit assigner une place structurale, comment la recevoir, la lire, l'interpréter. Je voudrais m'arrêter, j'espère que j'ai encore un petit peu de temps, mais très vite, dans d'autres textes je l'ai fait de façon un peu plus approfondie, aux deux exemples ou aux deux textes que j'évoquais tout à l'heure en commençant, c'est-à-dire Hegel et Nietzsche. L'esprit du Christ animé son destin et, pour privilégier un texte, l'antéchrist ou l'antichrist de Nietzsche. Dans ces deux textes, on voit prise en compte et analysée une opération juive qui serait singulière, qui serait fatale et qui aurait une place absolument centrale dans l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire dans l'histoire de l'Occident. Hegel et Nietzsche examinent les effets dévastateurs pour l'époque et pour la pensée, pour la salubrité de la pensée, de cette opération juive, et l'un et l'autre appellent à une destruction métaphysique, bien sûr, du judaïsme, dès lors que à ce judaïsme aura été assignée une place particulière dans l'économie de la pensée qui le pense et une fonction paradigmatique dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire de l'Occident. Comme l'histoire de l'être pour Heidegger, ce que le jeune Hegel appelle l'ontologie de la vie constitue le cadre, l'horizon, l'assise philosophique où le judaïsme vient s'insérer pour être thématisé, entendu, interprété. Comme la Machenschaft heideggerienne, alors il faudrait moduler cette série de comme, je sais très bien que je vais très très vite, hein. La séparation, selon Hegel, c'est le même thème obsédant de l'esprit du christianisme et son destin que la Machenschaft dans les Beiträge, par exemple, la séparation nomme, séparation typiquement juive, voilà l'opération juive selon Heidegger, la séparation. La séparation nomme la singularité d'une opération spécifique que le judaïsme condense, en effet, et que la positivité de la religion chrétienne, hein, c'est l'expression heideggerienne d'un de ses manuscrits, c'est-à-dire, au fond, l'enjuivement, la judaïsation de la religion chrétienne, peut, à l'occasion, incarner. Le judaïsme, depuis Abraham, dans l'analyse hegelienne, instaure un rapport strictement instrumental, un rapport limité à l'usage marchand du monde, qui relève de la prédation calculante. On est dans Hegel, on n'est pas dans Heidegger. C'est-à-dire d'une manipulation par où bénéfice est tiré du monde, mais pour soi et aux dépens des autres. Dans l'Antichrist de Nietzsche, aux Juifs est également assignée une place à la fois tragique et destinale dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire du monde. Ils sont en effet à l'origine de toutes les transvaluations, de toutes les dénaturations et de toutes les formes de décadence, tout en s'en préservant soigneusement eux-mêmes, explique Nietzsche. De là, je cite Nietzsche, je cite le paragraphe 24 de l'Antichrist, de là leur force vitale prodigieusement résistante, leur influence considérable sur l'histoire des hommes, dès lors qu'ils ont lié leur propre sort aux destinées du christianisme, mais le christianisme n'est rien d'autre aux yeux de Nietzsche, qu'un judaïsme, hein, qu'un judaïsme qui a réussi d'une certaine façon, et que l'instrument du judaïsme, de la même façon que la décadence, est pour les juifs un moyen. Ceci se marque dans ce paragraphe 24, dans une dichotomie qui anticipe très précisément sur le manichéisme, comme on a pu dire, onto-historial de Heidegger, entre l'être et les temps. Les juifs seraient, je reviens à Nietzsche, incroyablement attachés à ce qu'il appelle lui l'être, et ennemi irréductible de la nature, écrit-il. Alors, ce couple être-nature signifie, sous la plume de Nietzsche, les Juifs ont déjà choisi, toujours déjà, l'être à tout prix, sans jamais hésiter devant la falsification radicale de toute nature, écrit-il. L'être à tout prix, il faut évidemment faire attention à l'usage des termes, hein, on n'est plus dans Heidegger, l'être à tout prix relève, sous la plume de Nietzsche, d'un régime ontique de sommation acharnée des étangs, dont ils ont fait leur chose, écrit Nietzsche. C'est-à-dire, je le cite encore, la vivante antithèse des conditions naturelles. Ces conditions naturelles, en revanche, ce que Nietzsche nomme génériquement nature, a été mise par le judaïsme sous la coupe de l'être, ce qu'il appelle l'être. Hein. Il faut faire un petit effort, on n'est pas dans Heidegger. L'être réduit aux étangs, qui le constitue, et qui est ravalé au rang de moyen, écrit Nietzsche, en vue d'une fin. La fin, c'est la domination et la puissance. Le couple heideggérien être-étant, qui est structuré par le primat des seconds, les étants, sur le premier, l'être, qui est devenu inaccessible, est tout à fait homologue, jusqu'à un certain point, au couple nietzschéen nature-être, qui est articulé par la falsification de la nature au profit de l'être, sous la plume de Nietzsche. Il y a un partage, en quelque sorte, nietzschéo-heideggérien, à quoi j'ai associé le texte du jeune Hegel il y a un instant. Ce Weltjudentum, les Juifs, la Judéine, comme dit Nietzsche, etc., etc., peu importe, se voit assigné à une fonction vectrice dans l'histoire. Que ce soit l'histoire de l'être, ou que ce soit l'histoire comme transvaluation de toutes les valeurs. Dans tous les cas, la suprématie de la manipulation des étangs, ou bien la révolte des esclaves, on a un rôle fondateur, inaugural, du Judentum, qui, à chaque fois, les analyses sont ensuite très différentes. Je ne voudrais surtout pas donner l'impression que je rabats Hegel sur Nietzsche et Nietzsche sur Heidegger, comme ça, d'un trait de plume. Mais je vais très vite, puisque c'est un peu la loi du genre de cet exercice. À chaque fois, ce rôle central, inaugural, ouvre dans l'histoire son mauvais côté. Par les Juifs, le mauvais côté de l'histoire s'inaugure, s'entame, se perpétue. L'autre commencement, ou la loi contre le christianisme qu'on trouve en annexe de l'Antichrist, nonobstant toutes les différences qu'on voudra, bien sûr, nomme un souci partagé, l'éradication de l'ancien commencement, puisque cet ancien commencement est commandé par cette fonction inaugurale, par où s'ouvre le mauvais côté de l'histoire, pour dire les choses comme ça, c'est une expression de Marx et qui n'est ni de Hegel, ni de Nietzsche, ni de Heidegger. À chaque fois donc, il y va d'un geste qui consiste à introduire la philosophie dans l'antijudaïsme, si vous voulez, et donc à asseoir philosophiquement cet antijudaïsme, à le monnayer en philosophème diversifié, c'est-à-dire à l'extirper de son sol originaire théologique pour en faire valoir la fonction moderne. Et ceci au titre d'une construction théorique. La philosophie, en particulier l'idéalisme allemand, mais au sens de ça comprendrait aussi Schopenhauer et Nietzsche, joue un rôle absolument central dans cette sécularisation de l'antijudaïsme chrétien en antisémitisme politico-culturel. Alors, à partir de ce double mouvement que j'ai indiqué, c'est-à-dire le diagnostic porté sur l'époque et la domination de l'étang. Ensuite, le Weltjudentum comme paradigme central, par où peuvent se réduire toutes les figures convoquées dans les cahiers noirs. Est-ce que, de ce double mouvement, on peut simplement conclure que cet antijudaïsme, c'est la raison pour laquelle je l'ai élargi à d'autres penseurs, Hegel, Nietzsche, ou cet antisémitisme philosophique, est-ce qu'on peut dire qu'il ne pense pas? Est-ce qu'on peut, au fond, remiser toutes ces pages des cahiers noirs au rang de simples préjugés idéologiques, au motif qu'il y a évidemment, mais ça on pourrait le montrer aussi pour Hegel ou pour Nietzsche, de l'idéologie dans ces énoncés? Il me semble que non. Il me semble que Hegel et Nietzsche, Heidegger à sa façon qui n'est pas la leur, insèrent dans une pensée, c'est un point certainement à la fois douloureux et délicat, hein, parce que je me trouverais obligé d'avoir à répondre à une question que j'anticipe. Est-ce qu'on peut poser quelque chose comme ça, une pensée antisémite? C'est la question, c'est toute la question. L'opération donc philosophique consiste à insérer dans une pensée cet antisémitisme dont les cahiers fournissent l'attestation paradigmatique en quelque sorte. Il me semble que ce qui est incontestable, c'est qu'il y a de la philosophie dans les cahiers noirs. La philosophie, là encore, élargie au sens positif que lui donne positif, enfin bon, au sens non pas simplement réduit de Heidegger, mais au sens large, disons des choses comme ça, même si c'est un peu grossier. Il y a de la philosophie dans les cahiers noirs. Je dirais même qu'il n'y a que cela à bien y regarder. Nonobstant les couches, les sédimentations idéologiques qui sont incontestables, mais on les trouverait de la même façon dans le texte de Hegel ou dans le texte de Nietzsche, ni plus ni moins. Donc l'histoire de l'être s'introduit dans le nazisme via Heidegger avec le souci qui est maintenu après 1945. On a dit souvent que le fameux silence, enfin les positions de Heidegger après 1945 étaient encore plus terribles que les positions de la première moitié des années 30, si on veut. Le souci, c'est en effet, et je répète, il est maintenu après 1945, de maintenir l'idée qu'il a pu y avoir une vérité et une grandeur du mouvement national-socialiste. Donc, la question qui se pose à nous, c'est la question très délicate, je n'ai pas du tout l'ambition d'y répondre aujourd'hui, c'est la question de savoir que faire avec ces textes, comment les lire, comment les convoquer, peut-on les convoquer ? Faut-il les lire ? Ma réponse, là encore, est sans ambiguïté. Oui, bien sûr, je le répète, les cahiers sont une œuvre philosophique. Et c'est le sens, d'ailleurs, le plus évident de la volonté de Heidegger de les intégrer à l'édition des œuvres complètes. Hein ? Disons que lui ne s'y est pas trompé. S'il avait eu, l'impression qu'il avait écrit, comme ça, à la légère, de grosses bêtises dans les années 30... sur lesquelles il entendait, enfin, qui était devenue inconsistante au moment où il statue sur l'édition des œuvres complètes, il aurait demandé qu'on ne publie pas ces cahiers. Donc il faut prendre cette décision heideggerienne au sérieux. La prendre au sérieux, pour moi, ça veut dire qu'on a affaire avec les cahiers à un texte philosophique. Et c'est un texte philosophique, je pense qu'il n'y a pas de scrupule à le dire, qui offre de très sérieuses stimulations. Un texte philosophique souvent très stimulant. Je voudrais, simplement pour illustrer mon propos, pour ne pas le tenir comme ça en l'air, donner un ou deux exemples. À mon sens, et dans le travail philosophique qui est le mien, hein, nous sommes chacun, les uns et les autres, engagés dans du travail, dans de l'élaboration, dans de la construction philosophique. Dans ce travail qui est le mien, je dois dire que, par exemple, Heidegger me paraît être l'un des penseurs, des constructeurs les plus profonds qu'il m'ait été donné de lire de la dialectique dans sa figure spéculative hegelienne. Je peux renvoyer au cours de 36 sur Schelling, dont Heidegger nous dit que Schelling pense force et non pas concept, parce que Heidegger y voit dans Schelling, au fond, un des rares philosophes non dialecticiens. Mais on peut aussi se rapporter à de très nombreuses notations des cahiers noirs, en particulier au début du volume 95, la longue note intitulée « Dialectique ». La dialectique, pour Heidegger, y est déterminée comme cette procédure qui ne règne pas par hasard sur la métaphysique depuis Platon, dit-il, et qui, par où, la figure du surmontement des oppositions en tant que « Aufhebung », Aufhebung, dont Derrida disait qu'elle était une mère chrétienne, aura, selon Heidegger, historialement bloqué la pensée sur l'étentité de l'étant, en se méprenant foncièrement sur la nature et l'origine de la Gegensätzlichkeit, de la contradiction, de l'opposition, qui serait à penser ou à repenser non plus dialectiquement, c'est une sorte de nouveau commencement là aussi, mais à partir de la vérité de l'être. D'autre part, la dialectique est régulièrement associée à ce que Heidegger appelle la christianisation de l'image du monde, qui est devenue la nôtre. Et la dialectique de Saint Paul à Hegel aura, à proprement parler, dans l'analyse heideggerienne, effectué, au fond, le nihilisme, aura contribué très largement à l'effectuation du nihilisme dans ses dernières extrémités. Mais il se trouve, sur ce point de la dialectique, toujours, je poursuis encore un ou deux points très très vite, hein, ce sont comme des notations très très rapides que je me contente d'indiquer ici. Il se trouve que, pour Heidegger, le judaïsme, évidemment, hein, le judaïsme en son esprit, en son essence, le judaïsme comme instance métaphysique mondialo-historiale, représente, là encore, le comble de la dialectique. L'ennemi le plus acharné de l'être, le judaïsme, s'incarne dans l'ennemi la plus acharnée de la pensée, la dialectique. La christianisation de la pensée n'est que le prolongement pervers de la judaïsation du monde, réduit à sa totalité étante, représentable, fabricable. La dialectique juive, c'est cette fameuse dialectique qui tourne à vide, Leela, au fin de dialectique du rapport sur Königswald, est saisie dans les cahiers sous les espèces de la calculabilité, de la ratiocination, de l'historie, en tant que cet historie est comptage, calculation, computation, chronologie, etc. Les juifs, ou le judaïsme, hein, le Weltjudentum, en tant que tel, serait donc, nous dit Heidegger, hyper dialectique. C'est-à-dire, de toute façon, du mauvais côté de l'histoire de l'être, en l'occurrence. Je rappelle ici que l'anti-judaïsme hegélien, dans le même texte, l'esprit du christianisme et son destin, l'anti-judaïsme hegélien impute, de façon exactement contraire, symétriquement inverse, impute aux juifs une incapacité quasi congénitale à tout exercice dialectique vivant. C'est la séparation dont je parlais tout à l'heure. Ce qui ferait défaut au destin intégralement aliéné du judaïsme, du peuple juif, du peuple de la séparation, ce serait justement la dialectique, même si elle est seulement préfigurée dans ce texte de la période de Francfort, la dialectique de l'unité concrète, le sens de la médiation, de la relation vivante. La séparation, c'est le contraire de tout ça, c'est le contraire de la dialectique. L'incarnation, justement, dans une multiplicité de liens polymorphes. Le judaïsme, qui est donc le comble de la dialectique pour Heidegger, figure chez Hegel l'absence désertique de la dite dialectique. On a ici un chassé-croisé qui me paraît indiquer, effectivement, ici il est question d'histoire de la philosophie, mais on pourrait montrer comment les choses se passent de la même manière dans toute une série d'autres registres. On a affaire à un jeu terrible, hein, puisque les juifs sont à la fois les hyper-capitalistes et les hyper-bolcheviques dans la rhétorique de l'époque. Ils sont là, en l'occurrence, des hyper-dialecticiens ou alors des totalement incapables de toute dialectique. Ce qui me paraît, c'est là-dessus que je voudrais finir, ce qui me paraît se tenir peut-être à la source, je ne sais pas, de cette occultation généralisée au fond du judaïsme et cet aveuglement sur le judaïsme, c'est qu'à aucun moment, ni chez l'un, ni chez l'autre, ni chez les uns, ni chez les autres, est convoqué au fond ce que pense le judaïsme. Les figures en sont convoquées, mais jamais à partir de ce qu'il pense lui-même, comme on le fait abondamment pour les Grecs. Les raisons ne tiennent pas à une malveillance particulière de tel ou tel philosophe ou à une ignorance. Les raisons sont proprement historiales. Mais il y a une méconnaissance, disons, on ne peut pas ne pas le relever, ou une méprise, aussi bien de Hegel que de Heidegger, sur la dimension prophétique de cette pensée. Sur cette question de la dialectique, je dois dire, je vais un petit peu vite, que si on avait pris en compte ce que pense le judaïsme, après tout, on aurait pu voir que Hegel est beaucoup plus perspicace que Heidegger, parce qu'en effet, les pensées juives contemporaines, et les pensées juives, je n'ai pas le temps là non plus de développer, hein, inspirées plus immémorialement par la tradition biblique et surtout par la tradition talmudique, sont, on peut le voir au moins pour citer deux penseurs contemporains, chez Lévinas et chez Rosenzweig, sont des pensées radicalement étrangères à la dialectique, disons les choses comme ça. Voire, parfois, dans un geste délibéré, radicalement anti-dialectique. La revendication chez Lévinas de la séparation, il y a une pensée de la séparation chez Lévinas, on voit très bien qu'il y a quelque chose comme un écho qui est repris de Hegel, ou dans la nouvelle pensée rosenzweigienne, on voit ces configurations. Un dernier point, je pense que j'ai plus beaucoup de temps, donc mais je vais l'évoquer avant de conclure. Ce dernier point porte sur justement la culture, hein, l'affairement culturel, la politique culturelle, etc. Pour Heidegger, cette figure du Kulturbetrieb constitue une des formes les plus accomplies du nihilisme, je l'ai dit. Je voudrais juste noter, je pense que je dois m'arrêter, hein. Oui, je dois... Ich habe noch ein bisschen Zeit.
Ja, aber die Zeit geht dann von der Diskussion ab.
Ja, also, je voudrais juste noter un point. Il y a une critique que fait Heidegger de cette notion de culture. Je voulais y revenir très longuement parce qu'elle me paraît, elle aussi, féconde. Ce que je vous disais de la dialectique, elle me paraît très féconde. Heidegger aurait pu s'aviser d'une chose. Et on ne peut pas, quand on connaît ces textes, on ne peut pas ne pas être frappé, en lisant Heidegger, par la similitude qu'on y trouve, qui s'y atteste, avec un texte que je cite comme ça à la hâte, de Franz Rosenzweig. Il y a le texte de Heidegger, je le cite pour le rappeler, il écrit la chose suivante. « Le seul peuple à n'avoir eu aucune culture, parce qu'il se tenait encore dans l'être, et n'en avait nul besoin, ce sont les Grecs du VIe siècle pré-chrétien. Mais tout désormais, on voit le déclin, hein, tout désormais dégouline de culture. Les Grecs n'avaient pas besoin de culture, ils étaient les deux pieds dans l'être. » Je voudrais vous citer un texte de Rosenzweig qui dit la chose suivante. Je le cite. « Das Judentum ist keine Kultur. » Le judaïsme n'est pas une culture. Il n'y a pas de culture juive. Explique Rosenzweig. L'élection juive n'est pas régie par l'accomplissement de merveilles culturelles, au nombre desquelles Rosenzweig compte les religions. Pour lui, la Grèce, c'est une culture. La Grèce, la Chine, l'Égypte, ces grandes civilisations ont empli le monde, notre monde, de culture, par leurs réalisations architecturales, artistiques, par leur littérature nationale, par leur mythologie, par leurs croyances, par leur poésie, etc. Pour les Juifs, rien de tel, explique Rosenzweig. Pour des raisons qui sont très analogues à ce que dit Heidegger des Grecs. C'est très remarquable. Pourquoi, pour les Juifs, rien de tel? Est-ce parce qu'ils se tiennent les deux pieds dans l'être? Certainement pas, ou bien alors oui, tout dépend ce qu'on entend par là et ce qu'on veut dire par là. En tout cas, ils se tiennent, je reviens au texte de Rosenzweig, ils se tiennent dans l'écoute d'une voix, dans le soin d'une parole, commandé par un appel, par l'entente d'une réponse. Et le retrait ou l'invisible marque cet espace d'une dette absolument impensée. Hein, c'est quelque chose. Cette affinité, on le voit très bien aussi sur l'opposition entre la pensée pensante et la pensée pensée. Ça, c'est l'expression de Rosenzweig qui recoupe très précisément l'opposition heideggerienne entre la pensée « das denkerische Denken », dit-il souvent, hein, la pensée qui pense, et la pensée calculante, hein, mais c'est exactement la même ligne de démarcation qu'on retrouve chez l'un et chez l'autre. Écoutez, de façon très abrupte et sans conclure, je m'interromps sur ce point et je merci. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit.